Géopolitique.
Chantal Loureau.
Bonjour et bienvenue à tous. Les multinationales gouvernent-elles le monde? Nos dirigeants politiques ont-ils encore un pouvoir de décision? Va-t-on vers un retour du protectionnisme pour contrer une mondialisation effrénée? Nous allons en débattre avec nos trois invités. En duplex de Bruxelles, depuis le studio de Radio France, Philippe Lamberts, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésident du groupe Vert au Parlement européen. À mes côtés, dans le studio de RFI, Jean-Michel Quatrepoint, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, essayiste. Et vous avez publié avec Natacha Polony et le comité Orwell « Bienvenue dans le pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme » chez Plon. Lionel Fontanier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Université Paris 1 et à l'École d'économie de Paris. Vous avez collaboré avec Anne Harrison au livre « The Factory Free Economy », « L'économie sans usine » qui vient de paraître aux presses de l'Université d'Oxford. Jean-Michel Quatrepoint, ma première question est pour vous. Le soft totalitarisme, c'est quoi ?
C'est ce qui se développe, ou pourrait encore se développer un peu plus, dans nos sociétés occidentales. Et c'est finalement les suites de la globalisation. Nous faisons une différence entre mondialisation et globalisation, parce que globalisation est un concept anglo-saxon. La mondialisation, c'est autre chose. La mondialisation, c'est un phénomène normal de communication entre les peuples, entre les hommes, entre les sociétés et entre les cultures, et avec le respect mutuel des uns et des autres. La globalisation, c'est l'uniformisation du monde. Et cette uniformisation du monde, elle a commencé le 15 août 71, lorsque les États-Unis ont unilatéralement abandonné le lien entre le dollar et l'or.
C'était Richard Nixon qui a pris
cette décision. C'est Richard Nixon, le 15 août 71, très exactement. Je l'ai vécu en tant que journaliste. Et donc, tout le monde a été pris de court à l'époque. Et ça, ça a été le début du changement de cycle. On est passé d'un cycle keynésien à un cycle néolibéral, avec les idées de Milton Friedman. Et ce qu'il faut constater, c'est que pendant 8 ans, les néolibéraux ont travaillé. Ils ont travaillé activement, notamment à l'Université de Chicago, et ils ont mis en place un corps de doctrine économique et politique que Reagan et Thatcher vont appliquer à partir de 1980. Et ça, c'est la décennie 80 où le néolibéralisme s'impose dans les pays anglo-saxons et les Américains, je l'ai vécu aussi comme journaliste, ont expliqué aux Européens, nous avons dérégulé, nous avons cassé nos monopoles, des grandes entreprises et aussi des syndicats, et vous allez faire la même chose au nom de la libre concurrence et de la lutte accessoirement contre l'URSS et le totalitarisme soviétique. Et c'est ce qui s'est passé. L'Europe s'est progressivement mise aux normes américaines de la libre concurrence, du néolibéralisme, et qui donne au marché la prépondérance. À partir de là, dans les années 90, c'est la fin de l'histoire, on vous a expliqué. C'est-à-dire que on est dans un système uniformisé, avec une volonté d'uniformisation qui est, pas seulement l'uniformisation des normes, mais c'est le marché, un seul système politique, une seule vision et le monde pour tous. Et progressivement, on assiste à un monde uniformisé. Et le soft totalitarisme, c'est ça. C'est l'uniformisation du monde qui peut aujourd'hui déborder sur une numérisation du monde dominée cette fois par les multinationales. Parce que derrière, qui tire les ficelles, ce sont effectivement les très grandes entreprises. Les marxistes vous diraient que c'est le grand capital. Mais c'est une réalité aussi.
Philippe Lamberts, est-ce que votre constat est aussi sombre que celui de Jean-Michel Quatrepoint ? Est-ce que quelques-uns, en l'occurrence une élite fortunée, décident aujourd'hui pour tout le monde ?
Alors en fait, avant d'être député européen, j'ai vécu 22 ans dans une grande multinationale américaine et j'ai vécu en fait de l'intérieur cette financiarisation de l'économie et cette tentative de prise de pouvoir des multinationales. Je suis devenu député européen en 2009, donc 2 ans après le début de la crise financière qui s'est déclenchée en août 2007 aux États-Unis. Et j'ai cru que c'était le moment auquel on pouvait commencer à faire bouger les lignes. Or, qu'est-ce que je constate aujourd'hui ? C'est qu'après quelques années où le politique a osé reprendre un petit peu de pouvoir, eh bien, la contre-offensive est massive. Et ce que j'observe, ce n'est pas du tout que le politique n'a pas de pouvoir. D'ailleurs, la meilleure preuve, ce sont les centaines de millions dépensés chaque année par les multinationales pour nous lobbyer. Et si nous n'avions pas de pouvoir, elles ne dépenseraient pas cet argent. Elles n'ont pas l'habitude de dépenser de l'argent en pure perte. Par contre, ce que je constate, c'est une forme de soumission volontaire, non pas de tout le politique, mais en tout cas des familles politiques qui dominent, en tout cas, ou qui ont dominé depuis la Seconde Guerre mondiale, la fin de la Seconde Guerre mondiale, le champ politique européen, c'est-à-dire la famille conservatrice chrétienne démocrate, ce qu'on appelle le Parti populaire européen, dans lequel se retrouvent les Républicains en France, et la famille social-démocrate qui, peu ou prou, ont adopté la doxa néolibérale et finalement ont intégré cette idée que le marché est un meilleur allocateur de ressources que l'État. Et que finalement, ben, plus on libère les forces du marché, mieux la société se portera. Ils refusent de voir que l'augmentation, l'explosion des inégalités est le produit de ce choix politique. Et donc, de la sorte, ils se comportent un peu comme des somnambules aujourd'hui qui sont en train de mener nos sociétés vers l'abîme. Ils ne voient pas qu'en fait, ils sont les producteurs des nationaux-populismes que l'on voit émerger un petit peu partout en Europe. Je l'ai constaté après le référendum du Brexit, qui a été une forme de bras d'honneur adressé à ces familles politiques traditionnelles. Leur réponse a été, ben, il faut continuer. Il faut continuer. Et donc, si les peuples ne sont pas d'accord avec nous, on va le réexpliquer. Parce qu'évidemment, s'ils comprenaient, ils ne pourraient qu'être d'accord avec nous. C'est la définition même de la pensée unique. Et je pense que ce à quoi on assiste pour le moment, c'est une forme de révolte contre cette pensée unique, mais une révolte, évidemment, qui donne des résultats du genre de l'élection de Trump aux États-Unis et qui pourrait donner des résultats analogues en Europe. Et ça, c'est un constat donc, que je partage largement et qui m'inquiète.
Lionel Fontanier, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'était prévisible ? Est-ce que c'est l'effet logique d'une mondialisation effrénée, comme je disais tout à l'heure ?
Alors, je crois qu'il faut faire attention à ne pas mêler des questions qui éventuellement sont un tout petit peu différentes. Et il faut appeler un chat un chat. Donc, de quel chat s'agit-il en l'occurrence ? On l'a déjà un petit peu entendu. La crise de 2008 a fait d'énormes dégâts dans nos économies, a fait d'énormes dégâts dans nos systèmes sociaux, a eu des coûts considérables. Et depuis, on voit monter effectivement des thèmes un peu plus souverainistes, on voit revenir la thèse des idées protectionnistes, etc. En réalité, de quoi s'agit-il ? Eh bien, ce n'est pas tellement contre la mondialisation qu'une partie des populations en Occident se lève aujourd'hui. Et je dis bien une partie des populations dans l'Occident. Hein. C'est 1 milliard de personnes qui sont concernées sur les 7 milliards sur cette planète. Et sur ce 1 milliard, il y en a 20% qui votent pour les candidats qu'on a déjà évoqués. Donc c'est une toute petite partie de la population mondiale qui embrasse les idées dont on est en train de parler. C'est pas quelque chose de général. Aller en Asie, aller en Afrique, etc., vous entendrez, comme vous le savez, des discours très très différents. C'est important à rappeler dans une émission de géopolitique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos économies ? Eh bien, on critique donc la mondialisation ici, alors qu'au fond, la question qui est sur la table, c'est la place du capitalisme. Au fond, si on remplace le mot mondialisation par le mot capitalisme, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe. Et donc, je reviens sur une idée qui a été évoquée tout de suite, l'idée selon laquelle le marché procure une meilleure allocation des ressources que l'État. Est-ce que ça, c'est vrai ou pas ? Et est-ce que la conséquence, c'est de monter des inégalités ? Je crois que la réponse est toute simple. La réponse, c'est que le capitalisme est efficace pour créer de la richesse, mais le capitalisme ne sait pas distribuer cette richesse. Donc le fond du problème, qui n'est pas nouveau, ce n'est pas du tout une idée de nouvelle, le fond du problème, c'est ça, et ce problème prend une ampleur tout à fait particulière dans les périodes de crise. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation où le marché est efficace pour créer de la richesse, mais le marché ne sait pas la distribuer, et nos systèmes sociaux, notre organisation de la redistribution fonctionnent mal, les systèmes d'État-providence ont été mis à mal par la crise, ne savent pas répondre aux nouveaux enjeux. Et donc la vraie question, c'est comment faire de la redistribution pour s'occuper des perdants. Les perdants, c'est les perdants de la mondialisation, c'est les perdants du capitalisme, c'est les perdants du progrès technique. Personne ne propose d'arrêter le progrès technique.
Et pour vous, ce n'est pas la nature du capitalisme qui est en cause ? Un capitalisme qui serait aujourd'hui déconnecté de l'économie réelle et qui ne penserait qu'en fait qu'à satisfaire ses actionnaires toujours plus gourmands ?
Je pense qu'il faut faire attention à nouveau appeler un chat un chat. Ce qui est vraiment le problème, c'est ici, si problème il y a, c'est le capitalisme. Et le capitalisme a des objets qui sont tout à fait définis. Une entreprise, dans un système capitaliste, cherche à faire du profit. Il ne faut pas s'en étonner, c'est juste l'objectif. Et donc la conséquence de ça, c'est que le capitalisme est efficace dans l'allocation des ressources, mais que, bien qu'il produise beaucoup de richesses, le capitalisme produit beaucoup d'inégalités. Et la mondialisation est la forme moderne du capitalisme. Et donc, ce qu'il faut, c'est réfléchir aux moyens que peuvent se donner les États pour encadrer donc les conséquences du capitalisme et encadrer les conséquences de la mondialisation.
Oui, Jean-Michel, 4 points.
Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas un capitalisme. Il y a une économie de marché, mais il y a des capitalismes. Parce que je crois me souvenir qu'il y avait ce qu'on appelait le Fordisme, qui était un partage de la valeur ajoutée entre, effectivement, le capital, qui doit avoir sa rémunération, le travail, qui doit être rémunéré, les clients, qui doivent être bien traités, et la collectivité, qui doit recevoir sa juste part. Et que ce qui ne marche pas dans le néolibéralisme, c'est justement que le balancier il est parti trop loin. Alors on peut dire que Reagan et Thatcher sont arrivés, que le néolibéralisme est arrivé, parce qu'il y avait eu sans doute des excès du keynésianisme. De la même façon, le balancier aujourd'hui est parti beaucoup trop loin du côté du capital. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement retrouver un partage de la valeur ajoutée. Et puis il y a aussi le partage du pouvoir et des rapports de force. Parce que le monde, c'est aussi des rapports de force. Moi, ce qui me frappe, c'est que il y a, chez les capitalistes, comme on dit, une volonté de pouvoir absolu. Je vous donne une citation. « Le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans le gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination pratiquée dans les siècles passés. » Qui a dit ça ? C'est David Rockefeller en juin 91, c'est-à-dire en juin 91.
Rappelez David Rockefeller, qui était président de
Bilderberg. Bilderberg. Alors, on va crier au complotisme, mais c'est pas du complotisme. Tout a été écrit et dit. Il y a effectivement, de par le monde, ce qu'on peut appeler les tenants du supercapitalisme, qui pensent qu'effectivement, l'entreprise est mieux à même de gérer les affaires des hommes. Et donc de se passer des gouvernements, et de se passer des États, et bien évidemment de se passer des nations. Et ce thème est repris depuis plusieurs années par les gens de la Silicon Valley, les docteurs Folamour de la Silicon Valley, qui expliquent, et là il y avait une très belle citation dans Libération il y a quelques jours, sur une entreprise qui fait de la formation pour au numérique dans la Silicon Valley, et il explique « Un jour, les leaders politiques vont se réveiller et ce sera trop tard. Il faut les devancer. Je crois bien plus au pouvoir des entrepreneurs qu'à celui des hommes politiques et même de la politique tout court. » C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut retrouver effectivement un rapport de force normal entre le politique et les entreprises et le capital, entre le travail et le capital, entre les clients et le capital. C'est ça qui est en jeu. C'est pas seulement de la redistribution, c'est des rapports de force et des rapports de pouvoir. Et ce qui était en jeu derrière, Trump finalement, on pense qu'on veut Trump, mais Trump, il exprime, si vous voulez, la volonté de reprendre, c'est curieux, ça vient d'un entrepreneur, d'ailleurs c'est le comble, mais de reprendre en main, les politiques veulent reprendre la main. C'est ça, ils essayent de reprendre la main, mais ils l'avaient perdu la main. Est-il trop tard ? Peut-être. Parce que face au Google, aux GAFAM, c'est une lutte de rapport de force. C'est pas facile. Hein.
GAFAM, il faut expliquer, réexpliquer. Google, donc, Amazon, Google, Apple, Facebook, voilà, plus Microsoft.
Qui pèsent à E5 2 000 milliards de dollars en bourse, qui ont localisé dans les paradis fiscaux des centaines de milliards de dollars grâce à l'optimisation fiscale.
On va
et
revenir
qui peuvent
justement,
acheter tout ce qu'ils veulent.
On va justement revenir avec vous, Philippe Lamberts, sur l'optimisation fiscale. Vous vous êtes battu au sein du Parlement européen sur les pratiques d'entreprises comme BASF ou Zara qui réussissent à échapper en grande partie à l'impôt. Et c'est ça qui vous révolte.
Tout à fait. Et donc moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Jean-Michel 4 points. Il s'agit d'une bataille de pouvoir. En réalité, la logique de base du capital, c'est l'accumulation de la richesse dans des mains toujours moins nombreuses. Et l'obstacle que le capital a pour réaliser cet objectif, c'est éventuellement le pouvoir des démocraties qui peut imposer une redistribution de la richesse via la fiscalité, via la sécurité sociale, et ils veulent s'affranchir de cet obstacle-là. Et comment ? C'est en mettant les démocraties en concurrence les unes avec les autres. C'est ce qu'on a fait au sein du grand marché européen en réalisant une union monétaire et un grand marché sans union fiscale et sans union sociale. Résultat des courses, on organise en fait la mise en compétition des systèmes de protection sociale, des systèmes de redistribution fiscale, une compétition qui est en fait arbitrée par les multinationales elles-mêmes. Les grands traités de libre-échange dont on a parlé, TTIP, CETA, ont exactement le même objectif. Et d'ailleurs, on l'a bien vu parce que lorsqu'ils défendaient leur traité en disant « Ah, mais c'est pour réduire les droits de douane, c'est pour harmoniser les normes techniques », nous disions « Bah alors, tenons-nous-en à cela ». Et oublions toutes ces histoires de convergence réglementaire et surtout de tribunaux arbitraux. Et la réponse des multinationales, que ce soit Business Europe, que ce soit la Chambre américaine de commerce, était immédiate et violente. Ah non, ça n'a pas question Et cela nous a bien fait comprendre que l'objectif principal de ce traité, c'est de domestiquer, de soumettre les démocraties à la volonté des multinationales de telle manière à ce que, en fait, les démocraties n'aient qu'un choix, c'est d'abandonner le jeu. Et on le voit bien avec la concurrence fiscale. Aujourd'hui, les multinationales, en effet, payent un taux d'impôt réel sur les bénéfices qui tourne entre 0 et 5% maximum. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles mettent en compétition les États qui alors rivalisent de cadeaux fiscaux, se disant ben, « mieux vaut avoir quelques miettes d'une richesse énorme que rien du tout ». Et donc, je vais attirer en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, des multinationales qui vont me rémunérer avec des cacahuètes, mais au moins, j'aurai ces cacahuètes que mes concurrents, que d'autres États n'auront plus. Et donc, cette fraude et cette évasion fiscale, elle est en réalité organisée ou en tout cas rendue possible par les décisions politiques des États de se faire la concurrence. Encore aujourd'hui, après tous les scandales, que ce soit LuxLeaks, que ce soit les études qu'on a fait, nous, sur IKEA, BASF, Zara, que les syndicats ont fait sur McDonald's, etc., que constatons ? C'est que, un, les États qui sont condamnés par l'Union européenne à récupérer les impôts non payés par les multinationales refusent de le faire, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Irlande, condamnés par l'Union européenne à percevoir les impôts, disent on n'en veut pas de cet argent, que les multinationales le gardent. Et que se passe-t-il sur le plan réglementaire ? Eh bien, les États européens, même la très vertueuse Allemagne, disent « mais non, nous voulons continuer à faire la concurrence fiscale ». Vous entendez Michel Sapin dire qu'il veut abaisser l'impôt des sociétés en France. À l'époque, David Cameron, même chose au Royaume-Uni. L'Allemagne de même. Et donc, les États, en fait, décident eux-mêmes de se soumettre à cette concurrence fiscale en disant finalement un plus grand bien en sortira, sauf que les seuls gagnants de cette concurrence, ce sont les grands contribuables, c'est-à-dire les grandes entreprises et les grandes fortunes évidemment.
Est-ce qu'on peut parler du coup d'hypocrisie des dirigeants européens ou de double jeu ou d'absence de vue à long terme ?
Non, je dirais que la plupart des dirigeants européens actuellement en poste ont grandi politiquement dans ce monde de la pensée unique, si vous voulez, où en fait il n'y a qu'une seule manière de voir, et c'est que le marché est un bon allocateur de ressources, plus de pouvoir à le marché, mieux la société se portera, et ils ne la mettent pas en question. Rappelez-vous l'expression, je crois qu'elle était d'Anna Arendt, ceux qui ne pensent pas comme eux sont en dehors du cercle de la raison. Et donc, je pense qu'ils sont tout simplement prisonniers d'un mode de pensée. Ils continuent à penser que ce qui est bon pour Volkswagen est bon pour l'Allemagne, ce qui est bon pour BNP Paribas est bon pour la France, ce qui est bon pour General Motors est bon pour l'Amérique. Sauf que ils n'ont pas lu Piketty, ils n'ont pas lu Atkinson, ils ne voient pas ou ils refusent de voir que le résultat de ce choix politique est une augmentation, non pas sans précédent, mais en tout cas qu'on n'a plus vu depuis longtemps, des inégalités, de la pauvreté, de l'exclusion. Comment est-ce que je dirais ? Je vois un parallèle entre les dirigeants de l'Union soviétique avant, dans les dernières années de l'Union soviétique, qui disait « si l'Union soviétique n'a pas dépassé les États-Unis, c'est pas parce que notre système est mauvais ou moins bon, c'est tout simplement parce qu'on l'a pas essayé à fond ». Eh bien, les néolibéraux d'aujourd'hui, les Jean-Claude Juncker, les Sarkozy, les Fillon, mais je dirais aussi la plupart des dirigeants socialistes continuent à dire « c'est pas que les options politiques que nous avons adoptées depuis 30 ans sont mauvaises, c'est qu'on les a pas essayées à fond. On n'a pas dérégulé les marchés du travail à fond. On n'a pas été assez loin dans la mise en concurrence des États et des personnes. Et donc, il faut en fait aller plus loin pour que les bénéfices du système deviennent manifestes. Sauf qu'en fait, les bénéficiaires du système sont devenus manifestes. Vous savez, on peut encore dire, certains comme Trump peuvent encore dire que le changement climatique n'est pas vraiment le résultat de l'action humaine, mais qui peut prétendre que l'augmentation des inégalités, de l'exclusion, de la pauvreté n'est pas le résultat de décisions politiques ? Ce n'est pas des lois physico-chimiques qui sont à l'œuvre, ce n'est pas des lois météorologiques qui sont à l'œuvre, ce sont d'abord des décisions politiques. Et les dirigeants politiques qui aujourd'hui majoritairement exercent encore le pouvoir, c'est ce qu'on appelle la grande coalition entre les sociaux-démocrates, les chrétiens-démocrates et en fait les libéraux qui sont relativement minoritaires, mais qui ont porté depuis toujours cette idéologie, eh bien, cette grande coalition continue à penser qu'on n'a pas essayé le système à fond et qu'il faut y aller, il faut en fait aller plus loin. Et si les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'ils sont trop bêtes pour comprendre et donc il faut mieux expliquer notre politique. Combien de fois entendez-vous cette expression ? Les gens sont trop cons, il faut leur expliquer. Et quand ils auront compris, ils seront d'accord avec nous. Sauf qu'en fait, les gens ont bien compris et ils sont de moins en moins d'accord.
Philippe Lamberts, Jean-Michel Quatrepoint, Lionel Fontanier, nous allons marquer une pause, le temps d'un nouveau journal. Géopolitique, la suite, c'est dans 10 minutes sur RFI.
Géopolitique, Chantal Leroux.
Suite de notre débat consacré aux multinationales, gouvernent-elles le monde? Nos dirigeants politiques ont-ils encore un pouvoir de décision? Va-t-on vers un retour du protectionnisme? On en parle avec nos trois invités en direct de Bruxelles. Philippe Lamberts, co-président du groupe Vert au Parlement européen. Lionel Fontanier, économiste. Et Jean-Michel Quatrepoint, journaliste, essayiste et co-auteur de Bienvenue dans le pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme. Jean-Michel Quatrepoint, pour revenir un petit peu sur ce qui a fait l'objet de notre débat en première partie, est-ce que ce sont les lobbies aujourd'hui qui font la loi à Bruxelles comme à Washington ?
Les députés européens sont mieux à même que moi de parler sur de l'action des lobbies à Bruxelles. Mais c'est clair que nous sommes dans un univers de lobbies, mot inventé par les Américains, et que les lobbies ont parfaitement compris que c'était à Bruxelles qu'ils pouvaient agir le plus facilement. Et quels sont les principaux lobbies ? C'est aux États-Unis l'American Chamber of Commerce, European Business Table en Europe, etc. Ce sont les grandes entreprises, les grandes multinationales. C'est elles qui sont organisées. Je pense qu'il faut revenir à Obama. Parce que c'est très intéressant ce qui s'est passé en 2009, lorsque Obama a été élu. Obama a été élu pour essayer de répondre à la crise et pour essayer de changer de cycle économique. Car je crois que le cycle économique friedmanien néolibéral s'achève en 2008, avec la grande crise. Et que là, on espère un nouveau cycle économique. Le problème, c'est que personne n'a travaillé dessus, réellement. Et Obama, il est élu pour essayer de changer les choses. Il va essayer de changer les choses. Il va rencontrer les gens de la Silicon Valley, avec qui il était très lié. Il va rencontrer les gens du business, Wall Street, etc. Et il leur demande d'essayer de rapatrier du travail aux États-Unis et de payer un peu plus d'impôts aux États-Unis. Au passage, je vous rappelle que c'est très exactement ce que Vladimir Poutine avait fait avec ses oligarques lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Poutine a mis au pas ses oligarques. Obama n'a pas pu mettre au pas le big business. Et Steve Jobs, qui était encore vivant, sort de la réunion...
Le patron d'Apple.
Oui, le patron d'Apple, sort de la réunion qu'il avait avec Obama et les autres de la Silicon Valley, et il lui dit « This Jobs never come back ». Et effectivement, Apple ne rapatriera pas ses emplois et ne rapatriera pas ses bénéfices et ne paiera pas d'impôts. Donc, c'est ça. Il a échoué, Obama. Et j'avais fait un livre à l'époque qui s'appelait « La dernière bulle » et le sous-titre, c'était « Comment Wall Street a fabriqué une fausse reprise et phagocyté Obama ».
Et aujourd'hui, Lionel Fontanier, est-ce que Donald Trump, lui, pourrait réussir ?
Est-ce que Donald Trump peut réussir?
Ça dépend. Pendant sa campagne, il a vilipendé le monde de la finance et le pouvoir de la finance. Et en même temps, il vient de nommer comme principal conseiller économique le numéro 2 de la banque Goldman Sachs. Donc c'est un peu étrange.
Il dit beaucoup de choses, il dit quelquefois des choses contradictoires. Il a aussi nommé son gendre, je crois. Donc tout ça est assez difficile à prévoir. Il y a trois domaines dans lesquels sa politique est assez anxiogène. Le domaine probablement le plus grave, c'est la question du climat. On est très inquiet de savoir si les États-Unis vont revenir en arrière sur les engagements qui avaient été pris. Le deuxième, c'est vraiment la dimension géopolitique et conflictuelle. Quelle va être la politique par rapport à l'Iran, etc. Enfin, il y a tout un ensemble de questions qui, évidemment, se posent. Et il y a le troisième qui, au fond, est peut-être le moins grave, qui est la question du protectionnisme, où là, des annonces délirantes ont été faites. Et il est évident qu'au-delà des coups de menton, la politique en matière de protectionnisme de Donald Trump ne sera pas ce qui a été annoncé pendant sa campagne. Il a dit qu'il allait mettre 45% de droits de douane sur les produits chinois, ce qui n'a absolument aucun sens, justement parce qu'on a Apple et quelques autres. Et donc, puisque l'iPhone était fait en Chine et que l'iPhone comprend beaucoup de valeur ajoutée américaine et très peu de valeur ajoutée chinoise, quelques dollars simplement de valeur ajoutée chinoise dans un iPhone qui en vaut 700 pour le consommateur, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'en taxant les importations qui viennent de Chine, on va taxer d'abord la valeur ajoutée américaine. Et donc, Donald Trump ne le fera pas. Avec le Mexique, il propose des choses tout à fait terribles, indépendamment de la question du mur, en termes de protectionnisme, de renégociation de l'ALENA. Et là aussi, il est tout à fait possible que les Mexicains acceptent de renégocier l'ALENA. Donc il y aura des renégociations à la marge, mais tout ça n'aura qu'un impact assez limité. Ce qui va arriver, c'est que les États-Unis vont renforcer leur anti-dumping contre la Chine. Ce qui va arriver, c'est évidemment que les États-Unis ne vont pas donner le statut d'économie de marché à la Chine, alors que tout le monde s'était engagé à le faire, contrairement aux Européens qui le font. Et donc les États-Unis vont se retrouver traînés devant le tribunal compétent à l'OMC par la Chine. Ils vont perdre. Et donc, le grand risque, c'est effectivement que les États-Unis décident de sortir de tout ça. Et donc là, il y a un risque pour le système commercial multilatéral, pour l'ensemble de règles qui a été mis en place, qui est tout à fait considérable. Parce que on se gausse souvent de l'OMC en disant, mais l'OMC, c'est le libre-échange, c'est la baisse des droits de douane, tout ça organise l'ultralibéralisme. En réalité, ça n'est qu'une toute petite partie de l'histoire. L'OMC est d'abord un corps de règles pour que les entreprises puissent faire du commerce au niveau international dans des conditions de concurrence qui sont raisonnables. Et donc, si les États-Unis sortent de cela, ça peut avoir des conséquences tout à fait considérables. Donc oui, il y a un vrai risque. Je pense que le risque sur le protectionnisme n'est qu'un des multiples risques que fait peser Trump. Là où il peut réussir, par contre, c'est sur la dimension fiscale. Il faut bien voir qu'il y a deux sujets, hein. Le premier sujet, qui est quelque chose dont on ne sortira pas, c'est que le problème de nos économies aujourd'hui, c'est que les bases fiscales sont mobiles. Les travailleurs les plus qualifiés sont mobiles. Donc là où il y a de la base fiscale, là où on pourrait imposer, ces bases sont mobiles. La deuxième difficulté, c'est que les États rentrent en concurrence pour attirer de la base, justement. Même si le taux est petit, si la base est grande, eh bien, ça fait déjà beaucoup d'argent, c'est le système irlandais. Donc, pour attirer la base, on se fait concurrence sur soit les taux, soit éventuellement sur le calcul de la base, ce qui est beaucoup moins transparent et ce qui est beaucoup plus embêtant. Est-ce que va faire Trump ? Trump va imaginer des systèmes dans lesquels les bases d'imposition aux États-Unis vont être beaucoup plus intéressantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai risque, c'est-à-dire avec cela, il peut drainer de l'activité. Et comme les États-Unis sont très grands, mécaniquement, quand les États-Unis prennent une disposition de politique économique qui peut impacter les autres pays, ça peut avoir un effet considérable. Donc là où Trump peut réussir, c'est vraiment sur la concurrence fiscale. Trump peut faire demain des États-Unis une très grande Irlande. Et s'il arrive à faire ça, ça va être très compliqué pour nous.
Philippe Lamberts, est-ce que ça vous inquiète aussi la politique de Donald Trump, ou est-ce que quelque part ça aussi vous conforte dans, par exemple, votre méfiance par rapport au TAFTA, hein, le traité de libre-échange que l'Union européenne veut signer avec les États-Unis? La France, elle, est extrêmement réticente. Enfin, elle a changé d'attitude au fil des mois et aujourd'hui, elle se déclare hostile au TAFTA. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Trump a décidé, a annoncé qu'il renoncerait à tous ses projets de traité de libre-échange. Ce que je constate, c'est qu'il peuple son administration à moitié de généraux et à moitié de dirigeants de multinationales, en particulier du secteur financier, qui ont tout à gagner, évidemment, d'une mise en place de ces traités de libre-échange, justement dans l'esprit que je disais tout à l'heure, affaiblir le pouvoir des États. Donc je ne sais pas encore ce qu'il va faire, mais ce que je sais, c'est que les dirigeants européens aujourd'hui restent complètement, maniaquement et obsessionnellement orientés vers la conclusion de ces traités de libre-échange. Autrement dit, moi, j'ai bien entendu la gesticulation de la France sur le TAFTA, mais il faut bien lire les déclarations. C'est dans l'état actuel, parce qu'en fait, les États-Unis n'ont rien concédé d'intéressant. Mais les dirigeants socialistes français restent partisans de la conclusion d'un traité de libre-échange de nature néolibérale entre l'Europe et les États-Unis, tout d'ailleurs comme ils sont favorables à la ratification du traité avec le Canada, qui est un traité de même nature, même s'il n'est pas exactement le même que le TAFTA qu'on pourrait conclure avec les États-Unis. Ceci étant, comment dirais-je, moi, ce n'est pas seulement l'administration Trump qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est l'état des dirigeants européens. Moi, je veux bien que les bases sont mobiles, mais pourquoi est-ce qu'elles sont mobiles ? Parce qu'on leur permet d'être mobiles. Autrement dit, je suis pour la circulation des capitaux, mais tant que nous n'aurons pas une démocratie mondiale, il est évident que si l'on veut assurer la souveraineté démocratique, eh bien, lorsque vous passez de l'ère de souveraineté d'une démocratie à celle de sa voisine, il y a quelque chose qu'on appelle une frontière. Une frontière peut être traversée par des biens, par des services, par de l'argent, par des personnes, mais il y a des conditions qui sont liées au fait de traverser cette frontière. Et une des conditions, c'est par exemple de payer ses impôts. La force de l'Europe, son arme ultime, c'est l'accès au marché. Si vous dites à Apple ou si vous dites à Google, vous êtes les bienvenus pour faire du business en Europe, mais sachez que si vous venez faire du business chez nous, eh bien, vous payerez au minimum 25% d'impôts sur vos bénéfices. Rien ne vous oblige à venir faire du business chez nous, mais si vous le faites, voilà les conditions. Ça ne vous plaît pas, nous avons de bonnes raisons de croire que certains de vos concurrents trouveront cela intéressant. Et donc, dans cette perspective-là, si vous jouez de l'accès au marché, vous vous mettez en situation de réimposer les règles de la démocratie aux multinationales. Si au contraire vous dites, comme le disent aujourd'hui la plupart des dirigeants européens au pouvoir, que la libre circulation des capitaux, des biens et des services est un dogme, vous vous organisez votre propre soumission à la dictature de ces capitaux qui sont mobiles. vous avez quelque chose qui s'appelle aux États-Unis le Buy American Act, qui autorise et qui en fait obligation au pouvoir public de favoriser les producteurs locaux. On s'est beaucoup réjoui, notamment en France, du fait que Alstom ait gagné le marché du train à grande vitesse entre Boston et Washington, et c'est très bien. Petit détail, c'est qu'il est bien évident que les rames de ce TGV seront et devront être produites aux États-Unis. La Chine a des règles extrêmement contraignantes si on veut faire du business dans l'espace de sa juridiction, qui n'est évidemment pas démocratique, et l'Europe s'interdit d'avoir le même genre d'exigence à l'égard des entreprises qui veulent venir servir son marché.
Jean-Michel Quatrepoint, donc l'Europe est prisonnière de son idéologie, en fait ?
Oui, mais il faut comprendre d'où vient l'Europe et comment a évolué la construction européenne. La construction européenne, elle a évolué avec deux hégémons, l'hégémon américain et l'hégémon allemand. L'hégémon américain, c'est l'hégémonisme culturel, idéologique, politique, militaire et même monétaire. Et l'hégémonisme macroéconomique, c'est l'Allemagne qui l'a exercé. Sur la fiscalité, je pense que c'est un point très important. Et effectivement, Donald Trump, plutôt les républicains au Congrès, sont en train de préparer une réforme fiscale qui va bouleverser la base d'imposition des entreprises. Ils vont taxer les cash flows qui viennent de l'importation.
Cash flow, traduction.
C'est le résultat d'exploitation, si vous voulez, pour simplifier. Ils vont taxer ce qui est importé et ne pas taxer ce qui sera exporté. Et qui va être taxé ? Ce sont tous ceux qui importent des produits chinois. Ce qui est vrai, c'est que on a été tellement loin dans la globalisation que les chaînes de valeur ont été éclatées. Ainsi, l'industrie automobile américaine a délocalisé massivement au Mexique. Sauf que la voiture, elle fait 8 allers-retours avec les composants entre les États-Unis et le Mexique. C'est-à-dire qu'on a éclaté les chaînes de valeur. Ce qui est en train de se passer, et c'est à l'œuvre depuis 2-3 ans. J'ai dit que le cycle économique s'est achevé en 2008, mais on n'a pas commencé un nouveau cycle économique parce qu'on ne sait pas comment on va l'organiser. Mais le marché, en quelque sorte, il a horreur du vide. Il est en train de se remplir. Donc, d'ores et déjà, le commerce mondial a diminué. Et le commerce mondial, aujourd'hui, progresse moins vite que le PIB mondial. D'ailleurs, au passage, je crois que cette croissance exponentielle du commerce mondial n'est pas pour rien dans les changements climatiques et dans la pollution. Parce que quand vous avez les marchandises qui font 18 fois le tour du monde, les camions, les porte-conteneurs, les avions, ça pollue. Donc ça, c'est en train de se rétrécir. On assiste à une relative reterritorialisation de la fabrication. On va avoir des usines qui vont être relocalisées, parce que ça sera l'intérêt des entreprises, des usines robotisées. On ne va pas aller vers le fabless, on va aller vers des usines robotisées, ce qui pose accessoirement un problème d'emploi. Mais globalement, on va relocaliser ces usines robotisées dans les pays consommateurs. Ce qui n'empêchera pas certains échanges de sous-ensemble. Mais on va diminuer les chaînes de formation de valeur. La question, c'est encore une fois, du pouvoir et de la fiscalité. Il a été demandé en 2008 par le CDE, à différentes entreprises, que les multinationales publient leurs comptes pays par pays. Actuellement, elles ne publient leurs comptes que d'une façon consolidée, si bien qu'on ne s'y retrouve pas. Les Américains ne savent pas, par exemple, si Apple paye $1 d'impôt aux États-Unis. Vous ne pouvez pas vous y retrouver. Ça a été demandé. On pensait que ça allait être acquis, notamment en Europe. C'est repoussé, parce que les lobbies sont à l'œuvre, évidemment. Or, c'est une décision essentielle. Il faut que les multinationales et les grandes entreprises publient pays par pays ce qu'elles vendent, ce qu'elles achètent, ce qu'elles paye comme impôt, etc. Ainsi, on y voit déjà plus clair. Et ensuite, il faut harmoniser à un minimum les règles fiscales. L'Irlande, c'est un véritable scandale à l'intérieur de l'Union européenne. Parce que non seulement l'Irlande a un taux d'IS, d'impôt sur les sociétés, de 12,5%, alors que la moyenne est de 25%, mais en plus, ils font des cadeaux, on l'a vu avec Apple, il y a des grandes entreprises, des multinationales américaines, ne payent même pas un sou d'impôt. Ça, c'est inadmissible. Et donc là, il faut que les Européens, ceux qui sont fondamentalement européens, soient assez puissants pour dire à l'Irlande, écoutez, vous vous harmonisez, sinon vous sortez du marché commun et de l'Union européenne. C'est comme ça. Et les multinationales américaines, si vous allez en Irlande et que l'Irlande sort de l'Europe, eh bien vous paierez effectivement des droits de douane pour rentrer en France. Il faut, c'est un rapport de force, c'est un bras de fer, c'est une négociation. Il faut que les politiques qui nous représentent, parce que pour moi, les grandes entreprises, elles ne me représentent pas. Elles ne sont pas mes représentants. Mes seuls représentants, ce sont les hommes politiques, jusqu'à maintenant, ceux pour qui je vote. Eh bien, ces gens-là doivent effectivement défendre nos intérêts et les défendre face aux multinationales et trouver des deals, ça se négocie, etc. Et chacun y trouvera son compte.
Lionel Fontanier, face aux multinationales et aux règles qu'elles veulent imposer, c'est encore possible, selon vous, de conjuguer libéralisme et protectionnisme ? Libéralisme et protection plutôt. Voilà. Protection du citoyen, du travailleur.
C'est un très bon lapsus parce que en réalité, la difficulté aujourd'hui, c'est que le protectionnisme ne protège pas. Ce qu'on veut, c'est protéger les salariés et plus généralement l'ensemble des citoyens qui sont affectés négativement par les conséquences de la mondialisation du progrès technique. La mondialisation n'est qu'une petite partie, ou la globalisation n'est qu'une petite partie de l'histoire. Quand on nous explique qu'Auchan va licencier 1500 caissières, personne ne se lève pour dire il faut arrêter le progrès technique, il faut interdire la mise en place de caisses automatiques dans les supermarchés. Donc il y a un vrai sujet, ces 1500 caissières, il va falloir s'en occuper. Donc on a un sujet de protection des salariés, et le problème, c'est que le protectionnisme ne protège pas, juste parce que l'économie est devenue tout à fait globale et qu'on ne s'en sortira pas avec juste des droits de douane. Quant à la question du commerce mondial, de son ralentissement, le commerce mondial ne diminue pas. Le commerce mondial a ralenti sa croissance, ce qui n'est pas exactement la même chose. Et l'une des raisons pour lesquelles, effectivement, le commerce mondial a ralenti sa croissance, c'est que l'approfondissement du fractionnement des chaînes de valeur s'est arrêté. C'est-à-dire, depuis la crise, et Fukushima a été aussi dans le même sens, parce que ça fait comprendre aux entreprises quelles étaient les limites du fractionnement de leur chaîne de valeur. Ce fractionnement permanent des chaînes de valeur s'est arrêté. Ça ne veut pas dire qu'on revient en arrière, ça veut dire qu'il s'est arrêté. Et donc, on a eu cette transition entre deux périodes avec des chaînes de valeur peu fractionnées et des chaînes de valeur très fractionnées. Et donc, en passant d'un équilibre à l'autre, évidemment, le commerce mondial augmente beaucoup plus vite que le PIB quand on passe de l'un à l'autre. Mais une fois qu'on est arrivé sur ce nouveau niveau, on est sur un plateau. Et aujourd'hui, on est sur un plateau du commerce international. On ne sait pas ce qui se passera derrière. C'est tout le sujet. Mais en tout état de cause, le commerce international n'est pas en train de diminuer. Quant au climat, le commerce international contribue un petit peu, évidemment, via les transports à l'aggravation des conditions climatiques, mais si on veut vraiment traiter la question du climat, ce qu'il faut, c'est tarifer le carbone, et c'est ça qui est le plus efficace, puisque l'essentiel des émissions se fait quand même à l'intérieur de nos économies.
Philippe Lamberts, je vais vous laisser le soin de conclure. Est-ce que vous avez, malgré tout ce qu'on a dit depuis le début de cette émission, est-ce que vous avez encore bon espoir de réussir à bâtir une Europe radicalement différente, une Europe qui remette la finance au service de la société et du citoyen ?
Ben, si je n'avais pas espoir, je ne serais pas au Parlement pour porter cela. Mais je dirais que la pièce est en l'air et elle peut tomber de deux côtés. Je pense que le rejet du consensus néolibéral augmente dans la société, mais la pièce peut tomber soit du côté du repli national populiste de la pire espèce, et l'Europe a déjà connu le pire, elle peut encore le connaître. Un jour, Mitterrand a dit « le nationalisme, c'est la guerre », mais fondamentalement, je pense que cette affirmation reste vraie. Et on voit, par exemple, au Royaume-Uni, ce que le déferlement de xénophobie que le référendum du mois de juin a libéré. On voit que la parole se libère et que les pires pulsions se libèrent, mais en même temps, vous voyez, par exemple, un film comme Demain, qui connaît un succès extraordinaire, alors que c'est un simple documentaire, que des millions de gens vont voir, pas seulement en France, mais en Europe. Autrement dit, il y a dans la société une soif d'un autre chose, essentiellement d'une politique qui remette la dignité humaine au cœur de son action. Et la question, c'est, serons-nous, et quand je dis nous, c'est pas nous les Verts, c'est tous les politiques qui veulent vraiment remettre la dignité humaine au cœur de leur action, serons-nous capables de donner corps à cette alternative ? Et quand on voit le débat électoral français pour le printemps qui s'annonce, on ne voit pas vraiment le rassemblement à l'œuvre. On voit plutôt l'éparpillement, la dispersion. Et ça, évidemment, aurait tendance à leur faire tomber la pièce plutôt du côté de Marine Le Pen. Donc il reste beaucoup de travail si on veut donner corps à cette alternative, je dirais, humaniste au consensus néolibéral.
On aura sûrement l'occasion d'en reparler. Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Géopolitique. Merci à Radio France pour la liaison technique avec Philippe Lamberts à Bruxelles. Jean-Michel Quatrepoint, votre livre « Bienvenue dans le pire des mondes », coécrit avec le comité Orwell et publié chez Plon. Vous avez aussi publié « Le choc des empires » chez Gallimard. Lionel Fontanier, je rappelle que vous avez collaboré avec Anne Harrison au livre « The Factory Free Economy », »,« L'économie sans usine », qui vient de paraître aux presses de l'université d'Oxford. Merci à Nathalie Laporte qui a réalisé cette émission et à Marjorie Bertin qui m'a aidée à la préparer. Le podcast de Géopolitique, c'est sur RFI.fr. Samedi prochain, c'est Marie-France Chatin que vous retrouverez à ce micro. Bonne semaine à tous.